L'Avalanche revenait de Toronto, pas plus tard qu'hier soir, une défaite cuisante de 8 à 3. L'Avalanche est privée de ses deux premiers gardiens. Ils doivent envoyer devant le filet à Montréal le jeune Johansson, le troisième gardien de l'organisation. Alors que le Canadien, lui, tente de se replacer vers le chemin de la victoire, ils ont été bien servis par un gardien, le gardien Jake Allen, au cours des deux dernières sorties. Mais malheureusement, ça ne s'est pas toujours terminé du bon côté pour le Canadien. En première période, comme c'est souvent son habitude, Jake Allen permet aux Canadiens de rester dans le match. Il va réaliser plusieurs arrêts spectaculaires permettant à son équipe d'espérer puisqu'après 20 minutes de jeu, c'était 0 à 0. En deuxième période, les buts vont commencer à être réussis de part et d'autre. D'abord, lors d'un désavantage numérique qui est un peu la spécialité de l'Avalanche cette année, l'attaquant O'Connor va compliquer la vie du Canadien sur une tentative de sortie avec un jeu à la remorque. Il intercepte et il passe à Nichushkin. Celui-ci tire directement à bout portant pour battre le gardien Allen. C'est son sixième de l'année et c'est en désavantage numérique que l'Avalanche prend les devants à 3 minutes 11 de la deuxième période. Trois minutes plus tard, pendant un jeu de puissance, Ben Sherratt va enfin concrétiser après le quatrième jeu de puissance du Canadien de la soirée. Il va lancer de la pointe alors que Dvorak fait du stationnement devant le gardien adverse. Ça réussit, c'est son cinquième de Caulfield et Armia. À 6-51, ça porte le compte 1-1. Tout est alors permis pour le Canadien de Montréal. En fin de deuxième, il y aura un but important à 15 minutes 50. Le défenseur Kyle Makar va profiter d'une passe de Girard pour battre le gardien avec un bon lancer. C'est son dixième de la saison et le compte est porté 2-1 en faveur de l'Avalanche après 40 minutes de jeu. En troisième, l'Avalanche ajoutera deux buts pour assurer le tout. D'abord, André Burakovsky, son septième de la saison sur une passe de Nazim Kadri. Il y a aussi Samuel Girard qui a fait un très beau jeu là, sur cette séquence-là sans être crédité d'un point. À 2 minutes 31, l'Avalanche donne deux buts d'avance, c'est 3-1. Et en fin de partie, alors que Dominique Ducharme avait retiré son gardien de but dans un filet désert à 17-11, Landeskog profite d'un retour d'arrêt de Ben Sherratt pour marquer son septième de Rantanen et du défenseur Taze. Les tirs au but maintenant par le Canadien, 4 en première, 9 en deuxième et 7 en troisième période. 20 lancés sur le gardien de but Jonas Johansson. C'était son septième match de la saison. Il récolte une troisième victoire. Le Colorado avait 13 tirs en première, 9 en deuxième et 12 en troisième. 34 lancés sur le gardien de but Jake Allen. Allen, ce soir, a donné 3 buts à ses adversaires. Il encaisse la défaite. C'était son 18e match et c'est une 11e défaite en temps régulier. Les trois étoiles de la rencontre, Ben Sherratt, la troisième, le seul marqueur ce soir du Canadien. Kyle Makar, qui a marqué un but, mais qui a contrôlé le trafic presque toute la soirée avec de superbes jeux. Mais le joueur du match, c'est un peu un héros obscur en même temps. C'est Nichushkin qui a réussi le premier but du match, mais qui, de tous les instants, a été un joueur important dans cette victoire. La marque finale ce soir, l'Avalanche du Colorado l'emporte 4-1 sur le Canadien de Montréal. Notre prochain rendez-vous, samedi soir, en direct de la capitale mondiale de la musique, Nashville, au Tennessee. Le Canadien visitera les Prédateurs. Notre émission d'avant-match est prévue dès 18h, une édition d'avant-match de 60 minutes comme à tous les samedis. Les journalistes ont pris place dans la salle de presse du Centre Bell et attendent les premiers intervenants du côté du Canadien, Danny. C'est une autre performance décevante. Oui, l'Avalanche est une bien meilleure équipe actuellement sur papier que le Canadien, mais avec un peu d'effort, quand tu es dans le coup après deux périodes, tu es supposé offrir une meilleure troisième. On y reviendra alors qu'un premier intervenant s'amène au podium pour rencontrer les journalistes. Il s'agit de Nick Suzuki.
Marc-Antoine Godin.
Nick, John doesn't match his lines very hard on a normal basis, but tonight you were matched pretty heavily against Nathan McKinnon. What can you tell us about the challenge that you were presented for your line?
Yeah, obviously they're three top players in the NHL, and you know, I thought us three did a good job against them pretty much all night. Started a lot of time in the D zone, did a good job of trying to limit their chances as much as we could, and yeah, overall I thought the three of us did a pretty good job.
You know, usually you're looked upon to be more in an offensive role, but to be placed in a with a defensive assignment such as this one, How did you interpret that?
Yeah, I want to play against the other team's best players. And this morning, Dom came up to me and with Galley out of the lineup. I think he might have been with Jake and Lucky, and they might have done that. But someone needed to step in, and I'm definitely willing to do that. I thought I did well defensively and had a couple chances offensively too. So that would be good.
Eric Engels?
Nick, how can you describe what Ben Sherrod has brought to your team, even in this time where it seems as a lot of players have had a hard time kind of concentrating on the small picture versus the big one? He just seems to keep going along and playing his game.
Yeah, he's doing a great job. He goes against other teams' top lines all night and has been chipping in offensively, doing well on the power play there today, and we definitely need that from the back end.
Voilà donc pour Nick Suzuki.
Danny, sur la même page.
Honnêtement, à entendre les propos de Nick, on croirait que le Canadien a gagné. Ouais. Est-ce que je fais erreur?
Non.
Tout va bien, là.
On n'est pas sur la même page.
J'aime ça, jouer contre les meilleures lignes.
Je pense qu'on a fait un bon travail.
Somme toute, on a bien travaillé.
Fini la soirée avec moins deux, mais on a fait un bon travail.
Ouf! Écoute, est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est de problème d'auto-évaluation?
C'est ça. Carrément ça.
Ouch!
Les standards ne sont pas assez élevés actuellement.
C'est un peu décevant, là. C'est un peu décevant, Danny.
Je veux pas qu'il se flagelle sur la place publique.
Non, c'est ce que j'allais dire, l'auto-flagellation. Mais tu sais, au moins, sois honnête. C'est, overall, là, ça a bien été, mais c'est pas vrai.
Non, ben,
c'est pas vrai du tout.
Si c'est... Alors, je reviens, les standards.
T'as raison.
Moi, je pense que c'est ça. À un moment donné, il faut que tu te dises, quand le match est terminé, c'est pas assez. Ils ont 20 tirs. Ils ont été éclipsés en première période. Ils étaient encore dans le coup après deux périodes. Comme je te disais, c'est une équipe qui ne gagne pas sa route. Et ils jouaient même pas pour 500 avant d'arriver à Montréal.
Ils jouaient contre un troisième gardien de but, là, sans lui manquer de respect.
Je comprends que c'est une bonne équipe, meilleure que le Canadien. Là, mais écoute, moi, je n'adhère pas à ce que Nick vient de mentionner.
Et c'est décevant un peu de l'entendre parler comme ça. Danny, sais-tu ce qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est que là, c'est une équipe perdante qui se complaît quand... Ben, ce soir, au moins, on s'est pas fait battre 8-1.
Il est standard. Je te dis, à un moment donné, là, il va y avoir un virage. Les vétérans vont partir. C'est des gars comme lui qui vont prendre l'équipe en main. Oh. Alors, les standards sont trop bas actuellement. Puis je pense que là, ça devient extrêmement important de regarder les matchs froidement. Sans, je veux pas que... qu'on tombe non plus là, toujours être en train de s'en prendre à l'équipe.
Mais ce
commentaire-là, pour moi, n'est pas le reflet de son match. D'ailleurs, je t'ai dit à un moment donné, j'ai dit, écoute, on le voit pas.
Ça n'a pas été un facteur.
On le voit pas. Parce que moi, quand je sais qu'il joue un bon match, je l'entends dans ta description.
Voilà.
Ça veut dire qu'il est près de la rondelle, il touche à la rondelle, il fait des choses. Là, je m'excuse,
J'ai nommé beaucoup plus souvent Poehling, Armia, un petit peu Drouin.
Exactement.
Anderson avant sa blessure, c'est plate, là, parce qu'il connaissait un bon départ. Puis son trio, il y avait une certaine cohésion là, avec Toffoli.
Ouais.
Je te l'ai dit, à un moment donné, plus d'Anderson, ce trio-là s'est éteint complètement. Là. Toffoli, Dvorak, il n'y a plus d'étincelle.
Ouais.
Pendant que Nick Suzuki termine son point de presse, on va aller retrouver Mario Langlois, qui a sûrement entendu quelques propos de Nick Suzuki, qui a sûrement quelque chose à dire après cette défaite ce soir. Salut Mario.
Salut Martin. Salut Danny. Là, je m'en viens comme le jovialiste d'après-match.
Ah, OK. Vas-y.
On t'écoute.
Aide-nous.
Les gars, je vous ramène en 2011-2012.
Oui. OK.
Les deux Randy. Une saison très déprimante avec laquelle on peut faire des parallèles, quoique là, ça arrive très, très tôt cette saison. À l'issue de la saison 2011-2012, et ce qui finalement qui précède l'arrivée ensuite de Marc Bergevin et de Michel Therrien.
Retiens ton idée, Mario.
Oui.
Retiens ça.
On va y aller en
étape. Virgule, on va écouter Poehling.
Parfait.
What do you feel went wrong tonight?
I think we were just too inconsistent. I mean, our power play wasn't great. Obviously, we gave one up, and that gave them kind of some momentum. I mean, the first 10 minutes, I thought we were really well. We played good game and kind of shut them down a little bit, and then they had a little bit of momentum, and then obviously we gave that up, and it just felt a little different. So I felt like there's times where we were good and times when we were bad, and that's just not what you can do in a game like this. It's not going to go well.
Hey, Ryan, what have you learned from Ben Sherrod since you've been here?
Benny's great. I think he's, young guy like myself, I think he's a great guy. He's always telling me things I do well, and things like that. And he's a great guy also to look up to. I mean, he's been through every league and the way he got here. So he's obviously knows how to play the right way and what it takes to stay in the NHL. So I think he's a good guy to just look after. Yeah, it's tough. I mean, obviously this year we play so many games. There's not a lot of long practices, but in preseason and stuff like that, you play against him and you realize how hard it is to compete against him because he's going to compete for every puck.
Ryan, you guys are up against a goaltender with not a lot of experience in the NHL. You only got 20 shots at him. Is that something you thought about going into the game, getting more pressure on him?
100%. That's one of the main things that we didn't do either is coach said, hey, he's a new guy. I mean, he let up a lot last night. We just got to keep getting pucks to the net. And, I mean, when we did get pucks there was a lot of rebounds that squirted out and didn't go our way, but we didn't get enough shots tonight, definitely.
Thanks.
Next question.
Voilà donc pour Ryan Poehling.
Bonne analyse.
Alors, avant la traduction, oui. je veux pas que Mario perde son fil. Alors, je te repasse la parole, Mario.
Bien, je vais essayer de faire ça le plus vite possible, là, pas m'embarquer dans une grande dissertation. Mais tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a des similitudes là, dans la déprime de 2011-2012 et la déprime qui s'installe dans la saison actuelle. Mmh. On savait qu'il y a des changements à l'arrivée. Il y avait la transition de Pierre Gauthier. Ensuite, Marc Bergevin est arrivé, Michel Therrien. Ça a été le début d'une autre vague. Là, on sait qu'on est dans le début du début d'une autre vague. Les changements sont pas complets. Oui. On est dans le creux de la vague, mais je parle dans les étages. Donc, Gorton arrive et je pense pas que la nouvelle ligne d'autorité est encore établie. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas encore peut-être la hangue. Je pense que l'électrochoc n'est pas arrivé parce qu'on est encore en attente de d'autres changements. Je vais leur donner ce bouclier-là là, pour les excuser un petit peu. Je reviens en 2011-2012. Les gars, vous savez que donc Michel Therrien arrive. L'année suivante, l'équipe refait les séries. Et on pensait à la fin de 2011-2012 que tout le monde, il fallait sortir tout le monde du club. Là. Tu sais, c'était la grande déprime, semblable à aujourd'hui. Ensuite, l'équipe fait donc la première ronde l'année suivante, la troisième ronde l'année suivante. Vous vous souvenez, Kreider qui fonce dans Carey Price. On est en 2014 seulement à ce moment-là. Savez-vous combien de joueurs faisaient partie de l'édition déprimante de 2011-2012? On fait la finale de conférence contre les Rangers. Et quand Kreider blesse Price puis que l'aventure se termine, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver à ce moment-là. Combien de joueurs jouaient dans l'équipe de la déprime et sont allés en troisième ronde 2 ans plus tard?
Ben,
un petit quiz de même pour le plaisir.
Là. Ben, Price.
Évidemment. Tu sais, je vais abréger le suspense. Oui. Il y en a 11. Il y en a 11 joueurs. Il y en a eu 11. Alors, je vous les nomme très rapidement.
Patrick, parce qu'on va aller à Romanov.
En tout cas, Subban. OK, vas-y.
Vas-y complètement, okay. Mario, rapidement.
Subban, Dernay, Plekanec, Markov, Gionta, Heller, Yemelin, Bourque, Diaz, beaucoup de produits de l'organisation. White, il n'avait pas joué en série, ni Diaz. Georges, j'avais-tu nommé Pacioretty, Price, Subban et Dernay?
Ben, alors, tu résumes en disant qu'il ne faut pas tout jeter aux poubelles.
Il ne faut pas tout voir, tout noir.
T'es entièrement d'accord avec toi.
Je pense que c'est ça, les hauts et les
bas. On va aller retrouver Romanov, si tu le veux bien, Mario.
On revient tout ça après, oui.
Get back in power play. I feel better now.
Marc-Antoine?
Alexander, what's the how difficult do you? How long do you think this thing can go on? I mean, the fact that you win one game out of four and all that—it's only we're barely into December. How do you think that this group can make it to the end of the season with a rhythm like that?
That's really hard for everyone, for fans, for team, but. We try to play our best game. We try to find it, and I can say like somebody like playing not good or not in his game. Everyone trying to play his best.
Hey, Alex. The hit on Makar, and not only the hit on Makar and Poehling and a whole bunch of, but you seem to be doing that more often lately. You've been able to time it so that you can step up on guys and hit them on zone entries and stuff. Does that reflect your comfort level on the ice right now? Because you know what the right time is to do that, and what moments to do that.
Oh, for sure, I feel this moment. When I can hit him, so like I see where when he go with Poehling together, and he's like in trap, you know, because Poehling stay in his way, and reasonable, no more way, just on me.
Voilà donc pour Alexander Romanov. Tu sais, il dit on essaye. La plupart des gars dans notre équipe essayent.
Essayer de trouver notre match ensemble.
Oui. Écoute, il essaie d'expliquer le fond de sa pensée comme il le peut. Ce n'est pas sa langue maternelle, l'anglais, mais on comprend un peu ce qu'il dit. Puis dans les silences, on a compris.
Les émotions, on sent ses émotions.
On a compris que, c'est. Tu sais, ce n'est pas un joueur parfait parce qu'il est jeune, puis il commence, puis c'est dur apprendre à jouer à défense dans la Ligue nationale. Mais moi, je l'adore, ce jeune homme-là. Puis dans 2-3 ans, là, ça va être un défenseur très solide pour le Canadien.
Je veux dire quelque chose par rapport à lui, là. Lui, il faut lui trouver un partenaire qui joue dur.
Oui.
Tu comprends? Un gars qui va un peu le protéger, dans le sens que, parce que lui, là, il fait des ravages, à un moment donné, là. Tu sais, là, c'est pas le gars qui va lâcher les gants, tout ça. Puis je suis pas pour la bataille, là, mais je veux dire, juste avoir quelqu'un à côté de lui qui va imposer le respect pour le laisser faire ce qu'il a à faire, là. Là, c'est sûr que, bon, on oublie Weber, là, mais je parle de ce genre de présence-là.
Parce qu'il s'est fait râper le nez ce soir, là. Oui. C'est sûr, là. Danny, je l'adore parce qu'il s'essaye tout le temps.
Ah oui,
c'est... Puis le match est fini, c'était 3-1, là. On pouvait les compter, Mario et Danny, là, sur les doigts d'une seule main, les gars qui travaillaient encore, qui se battaient encore.
Des ondes, là,
on a l'impression que c'est 6-1. Là, puis...
C'est ça, on nous dit c'est l'impression que c'est 6-1. Le 27,
mais le 27 s'essayait.
Il va aider le Canadien à jouer des matchs. Puis j'ai envie de faire un parallèle avec Yemelin, qui était là dans la formation de la déprime en 2011-2012. Puis il était là en finale de conférence contre les Rangers 2 ans plus tard. Il y en a des éléments. Puis je pense que vous êtes à même de le voir. J'entendais chacun de vos commentaires dans les entre-périodes, le matériel d'échange. Les gars, c'est... Tu sais, je veux pas pousser de candidature ou quoi que ce soit, mais Patrick Roy, je suis pas en désaccord avec lui, je suis pas en désaccord avec toi, Danny, qui disait que, tu sais, la reconstruction, puis enfargeons-nous pas dans les mots, améliorons, c'est de l'amélioration continue. Tu peux, Toffoli, je n'haïs pas compte tenu que c'est un contrat qui est peut-être plus facile à bouger que d'autres. L'idée, puis on a un surplus de droitiers. C'est sûr que si quelqu'un d'autre veut d'autres contrats, t'es toujours ouvert, mais tu sais, entre rêver et quelque
appels,
chose de pratico-pratique.
Mario, il va avoir des Toffoli, appels parce que là, il y a beaucoup, je le tiens à le mentionner parce que c'est une information que les auditeurs vont aimer avoir. Il y a beaucoup de dépisteurs qui ont commencé à s'abonner au match du Canadien. Les chaises étaient pleines ce soir. Il y a des équipes qu'on voit et qu'on revoit. Les visiteurs de ce soir, l'Avalanche, sont venus suivre le Canadien pendant les 2 derniers voyages. Le Canadien a fait 2 voyages de 3 matchs. Là. L'Avalanche était là tout le long. On sait pertinemment quel est le joueur qui surveille là, chez le Canadien. C'est Armia, entre autres. Lekkonen est évalué par quelques équipes également. Ouais. Il va avoir des appels, Mario. Là, c'est sûr qu'on laisse Gorton arriver. Je pense que Marc Bergevin avait déjà commencé à recevoir des appels peut-être avant. Puis là, ben, Gorton va recevoir les appels. Il s'est transféré dans une nouvelle boîte vocale. Puis il y a trop de mouvements autour du Canadien, Mario, pour pas penser que déjà, on est à la pêche. Je parle pas du Canadien, mais je parle des autres organisations.
Ils ont le droit de venir voir de proche. C'est ça que Gorton fait. Pensez-vous pas qu'il n'a pas déjà visionné tous les matchs du Canadien depuis le début de l'année? C'est pas long, ça prend 1 heure de visionner un match. Tu sautes les pauses, là, et puis, tu sais, je veux dire, il a pu regarder des périodes bien vite parce qu'il n'y avait rien à voir. Fait que lui, là, il est juste venu sentir l'ambiance. Là, il a pris contact avec Duchamp. Il va prendre contact avec ses joueurs. Mais tout ça pour vous dire, là, la conclusion de la comparaison avec l'année 2011-2012, c'est pour vous dire qu'il y a matière à faire bien paraître la nouvelle gang de dirigeants qui arrive, dont Gorton et, point d'interrogation, qui ce sera. Parce que il y a moyen de rebondir rapidement. Là, puis ramène Price. Puis là, je vends pas. Moi, j'ai rien à vendre. Qu'il y a des bons joueurs hockey là-dedans. Arrêtons là. À un moment donné, c'est correct. Là, l'émotion retombe, la poussière retombe. On va voir c'est qui le DG. Amener une nouvelle équipe, une nouvelle vague, une nouvelle ligne d'autorité. Puis maintenant, cependant, je sais pas ce que t'en penses. S'il y a des joueurs qui rencontrent pas les standards, là, moi, je te rejoins complètement là-dessus. J'adore quand tu parles de ça. Mais si il faut que tu rétrogrades, quitte à le perdre au ballottage, tu vas quasiment remercier le bon Dieu si ça arrive, tu les envoies à Laval. Je veux dire, s'il y a des gars qui ne rentrent pas les standards, qui ne sont pas capables de rentrer à 20 pieds autour du net, d'aller se saler le nez.
Et Mario, bien évidemment, là, tu sais, les reconstructions de A à Z, là, quand tu regardes la quantité de contrats à long terme chez le Canadien, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, c'est pas nécessaire. Ça se passe pas de même. Puis avec un plafond salarial qui va rester à 81,5 pour encore 2 ans, là, parce que je vous l'annonce, c'est encore 2 ans à 81,5. Oubliez ça. Les Blues, un exemple de même, là. Savez-vous que ce soir, les Blues de Saint-Louis avaient un seul gardien prêt à jouer, c'était Uso, Ville Uso, et il n'y avait pas l'argent nécessaire sur la masse salariale pour rappeler Charlie Lindgren. Alors, ils ont pris le gardien d'urgence qui est embauché par le Lightning pour être là au cas où. Alors, c'est, je vous donne une indication, là. Quand les équipes ne sont même pas capables de faire venir un gardien de leur club-école parce qu'ils sont à côté, là, à côté, serrés au plafond, t'sais, des échanges avec des gars qui ont des contrats de 7 ans pour 56 millions, là, puis il s'en fera pas beaucoup.
Mais je vais ajouter une chose là-dessus, puis j'avais une discussion hier à l'émission, là j'ai juste pas mes données devant moi, mais je vais y aller de mémoire. Tu sais, quand on a laissé aller Radulov, on s'est dit « Ah, c'est un mauvais contrat », ben il termine cette année le contrat de Radulov. Il a joué une quarantaine de parties en éliminatoire, de mémoire, il a enregistré 28 points, il a 199 points grosso modo, à peu près 243 matchs, puis il est rendu, là, évidemment, 32-33, l'âge où seront rendus ben des joueurs qui sont, tu sais, je pense à des Gallagher et tout. Fait que, je vous dis pas qu'il a été parfait tout le long, là,
ben
Radulov, mais je vous dis juste que avant de condamner et avant d'annoncer la fin de carrière de la moitié du club, encore une fois, les extrêmes, moi je pense qu'il y a là. Pensez-vous que Jeff Gorton regarde ça sur papier, puis c'est là que la pression va arriver sur Dominique Ducharme? Danny, je sais pas ce que tu en penses. Le propriétaire dit que c'est un meilleur club qu'il n'y paraît. T'es sans doute d'accord. Je sais pas si t'es d'accord, jusqu'à quel point t'es d'accord avec ça, mais Patrick Roy, lui, semble d'accord avec ça. Puis on dit pas de tout garder. Ça prend des changements.
Je vais te répondre. Je vais revenir sur ce que tu disais tantôt, là, juste pour revenir à ton énoncé par rapport au standard. Le Canadien n'est pas capable de jouer 60 minutes parce que les joueurs clés ne rencontrent pas les standards. Ça, c'est la première affaire. Donc, parce que, tu sais, on peut regarder comme on veut, là, mais c'est pas normal qu'on voit plus Poehling qu'on voit Nick Suzuki. Là. Et à un moment donné, ça, c'est les standards. Ça veut dire que tu écoutes le jeune après le match, puis c'est correct sa game. Ça veut dire là, on est en train de glisser. Glisser dans le sens que
la complaisance.
On est dans le OK, on joue bien, mais on gagne pas, mais on joue bien. C'est parce que là, il nous manque des gars. Quand on va avoir des gars, on va être meilleur. Tu sais, on est en train là de tout défaire ce qui a été bâti l'an passé. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, si on ne redresse
pas... Ça, Danny, c'est leadership, ça.
Ça, c'est les standards. Et il y a une chose qu'on a dit il y a X temps. Il n'y a pas de capitaine. Il n'y a pas de... Là, tout le monde attend après un, attend après l'autre. Tout ça a provoqué... En plus, évidemment, là, tu perds Price. Mais là, on ne peut pas dire que le Canadien a perdu à cause du gardien ce soir. Là.
Ben non.
C'est clair.
On a pas de ça fait trois matchs qui donnent tout. Là.
C'est clair.
Vous l'avez mentionné, le nombre de tirs en avantage.
Messieurs l'entraîneur, on va tout de suite au podium.
Can you tell us anything more on Josh Anderson? Sorry, just before we get started. On Josh, is there any more detail on Josh and how bad it might be?
Right now, we think 2 to 4 weeks.
Ça serait quoi? Ce qui fait qu'on dit haut du corps, mais tu peux-tu nous sortir un peu plus?
Non, je peux pas parler de ça.
Ryan Poehling a dit tantôt que les unités spéciales vous avaient coulé dans le match de ce soir. Es-tu d'accord avec ça ou c'est plus que ça?
Ben, l'avantage numérique, c'est certain qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a fait. Donner un but, tu sais, quand c'est 1-1 ou c'est 0-0, hein. Le match est égal, tu as un avantage numérique. On a réussi à en chercher un après, mais c'est certain qu'on veut faire mieux que ça, c'est certain. Puis, tu sais, à 3-1, on a un autre avantage numérique. On a une chance peut-être de mettre ça à 3-2. Ça donne une chance de revenir.
Alexandre, Jérémy et Marc-André.
Avez-vous reçu les résultats des tests de Brandon?
Oui, ils sont positifs, donc ils vont être à l'écart au moins c'est une dizaine de jours.
Vous retournez dans une bulle complète?
Oui, pas mal. Ouais.
Jérémy?
Coach, posez la même question à Nick tout à l'heure, mais vous essayez de travailler sur des choses présentement, mais comment faire ça quand vous avez des gars qui rentrent et qui sortent de line-up? On dirait que le casse-tête change à tous les jours. Comment on fait pour travailler ça?
Moi, je suis presque content d'en avoir trois qui reviennent puis juste deux qui partent. Là. C'est vrai que c'est quasiment presque un positif d'être plus un. Là, on tombe even. Il y a trois qui sont arrivés, trois qui sont partis. Mais tu sais, comment on peut le contrôler? On peut rien faire. Il faut vivre avec. Puis ça amène des défis, mais c'est comme ça.
Dans toute cette séquence difficile, est-ce que un des points très très positifs, c'est le jeu de Romanov? Puis est-ce que tu es impressionné de voir à quel point ce jeune-là a steppé up après qu'il a été laissé tourner?
Ben, impressionné. Je suis content. Puis, tu sais, on a toujours aimé son potentiel. Tu sais, quand l'année passée, on parlait d'un joueur comme lui, on disait qu'on l'aimait, puis il fallait travailler avec, ça prenait du temps, puis il continue à grandir, puis je suis content de voir, vraiment content de voir où il est rendu, puis de la façon qu'il joue. C'est en plein ça qu'on veut voir de lui. Il s'en va dans la bonne direction. Il a pris des grands pas en avant. Il faut qu'il continue.
Charles? Oui, Dominique, je vais te demander. Évidemment, vous avez des problèmes de santé présentement, tu viens de le dire. Mais à quel moment est-ce que, avec les défaites qui s'accumulent, tu commences déjà peut-être un petit peu à coacher pour évaluer des gars?
Ben, tu sais, ça, c'est pas mon rôle à moi. Tu sais, c'est plus une décision où, une décision de l'organisation. Dire... on veut aller dans cette direction-là, puis on va le faire comme ça. Puis moi, tu sais, j'ai vécu un peu toutes les situations là, à travers mes années à coacher. Fait que peu importe la direction qu'on va décider qu'on va aller, moi, je vais embarquer là-dedans, puis on va y aller avec ça.
Jordan McKenzie et Jean-Luc.
Coach, I would just like to know what was your reasoning for having Cole Caulfield on the fourth line tonight, and what did you think of his play on the power play and at even strength tonight?
But the first thing is, like we said, with the guys in and out, and trying to keep at the same time guys that were together that had some success. So the Dvorak line had some kind of success lately. Bailing, Duvoy, and Armia finished the game really well last game. And we needed, I think, in the situation we were in, that we needed a line to be built to play against McKinnon's line. So then just the numbers after that. And I like, especially early, like the first part of the game, I really like Cole's step, and he was dynamic. Obviously, with the puck, that's what he needs to do to be effective. There is work to do without the puck, but I think it's just normal with a young player. So, you know, there was some ups and downs on that side, but it's part of the process too.